André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, en compagnie de nos deux amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour nos auditeurs.
Nous poursuivons notre série d'émissions sur les duettistes Jean Poiret et Michel Serrault qui, en 1955, créent une nouvelle revue, Fausse Pacifiée. Un soir, un visiteur renommé leur dit « C'est formidable de voir deux hommes s'aimer comme ça ». C'était Michel Simon. Il pensait qu'il formait un vrai couple à la ville, 20 ans d'avance sur la cage aux folles. Théâtre, cabaret, revue, il ne manque plus que le cinéma, leur joyeux palmarès. L'événement survient en septembre. Ils vont trouver leur premier rôle et Serrault bâtir son immense carrière. Fin 1955 a vu fermer l'Atomate, transformé en boîte à striptease. Bien d'autres lieux mythiques du spectacle suivront dans cette même triste voie. Et dès les premiers jours de 1956, il renouvelle les sketchs du spectacle chez Gilles. Cette époque, dans la même journée, il tournait une pièce de théâtre et terminait par les cabarets. Les cabarets aujourd'hui détruits. Ils les ont tous faits. Un véritable défilé de joyeux du genre. Toutefois, sur l'estrade de chez Gilles, qu'ils vont créer un spectacle inspiré de la Comédie française et du nom d'une de ses prestigieuses salles, les Folies Richelieu. Leurs épaules respectives joueront à leur côté Françoise Dorin, Madame Poiret, et Nita Saint-Péron, Madame Serrault. Ils sont de nouveau l'affiche de l'Olympia dès le 1er mars 1956. En mai, ils interprètent Mon bébé, joyeuse comédie télévisée. La même année, Sacha Guitry les engage pour deux rôles principaux de son prochain film « Assassin et voleur » en compagnie de Darry Cole. À l'automne de cette année, il teste chez Gilles « Un soir au grand siècle », une comédie inspirée du bourgeois gentilhomme. Texte très drôle, à condition de connaître la pièce de Molière. Deux jours plus tard, il préfère la retirer du programme. Françoise et Philippe vont nous interpréter un court premier sketch de Poiret-Serrault, « L'homme de paille ».
Notre rubrique d'orientation professionnelle de la semaine dernière a eu un tel succès que nous récidivons aujourd'hui. Après notre interview de l'horloge parlante, nous avons invité à notre micro, pour qu'il nous parle de son métier, un homme de paille. Monsieur, pouvez-vous tout d'abord nous donner votre nom ?
Ah non, c'est impossible. Je donne jamais mon nom.
Non, comme vous voulez. Vous pouvez parfaitement garder l'anonymat.
Ah, non plus. Je ne garde jamais l'anonymat non plus.
Ah, alors je ne saisis pas très bien.
Alors je prête mon nom. Je ne le donne pas. C'est le propre d'un homme de paille digne de ce nom de prêter le sien. Mais il ne le donne jamais.
Je comprends. Et votre nom est ?
Dubois.
Dubois ?
Dubois dont on fait les hommes de paille parfaitement, oui.
Monsieur, votre père était donc déjà homme de paille.
Oui, mais il fut brûlé avant que je naquisse.
Ah oui, oh, ce qui lui avait permis de vous communiquer le feu sacré.
Exactement. D'ailleurs, beaucoup d'hommes de paille sont des enfants de la balle. C'est une question d'hérédité et de gènes. Dans une famille, si les ascendants ont des gènes épis, et les épigones ont de grandes chances de devenir hommes de paille.
Je vois. Et du côté de madame votre mère, y avait-il aussi...
Absolument rien. Il n'y a pas de femme de paille. C'est un métier d'homme. Je pensais que le nom même de notre profession l'indiquait assez clairement. Et puis vous me passez tout le temps la main dans les cheveux, ça fait équivoque. Hein?
Mais bon, pas du tout. Vous avez une petite touffe là qui rebique et bon, j'essaie...
C'est mon épi. Vous croyez qu'on peut enlever son épi à un homme de paille? Vous ne manquez pas de touper vous-même, hein? Et pourtant, je vous le laisse.
Bon, excusez-moi et renonce, si vous le voulez bien, à notre propos. Qu'avez-vous à dire à nos auditeurs et à leurs parents sur votre métier d'homme de paille ?
Il ne faut pas qu'il se dissimule que c'est un métier très dur. Pensez à la promiscuité en été, dans les meules, aux épidémies qui s'en suivent. Heureux quand on ne se fait pas bluter au coin d'un champ.
Mais on dit pourtant que c'est une profession où on ne chôme pas.
Moi, je ne connais que des hommes de paille fauchés. Oui, et qui finissent dessus d'ailleurs. Au début, oui. Si on a fait foin de ses scrupules, si on ne se laisse pas couper l'herbe sous le pied, on arrive à gagner pas mal de blé. Mais ça ne dure pas. C'est un feu de paille. Et après, quelle déchéance morale. Combien d'hommes de paille pourris ou qui finissent dans la paillardise. Ils s'endurcissent tellement qu'ils ne s'aperçoivent même plus qu'ils sont devenus des hommes de poutre. Et la boisson. Vous avez vu au café ces déchets d'hommes de paille. Ce ne sont même plus des hommes, ils sont réduits à l'état de paille.
Oui. Alors, par conséquent, vous décourageriez plutôt les jeunes qui nous écoutent d'embrasser cette carrière.
Absolument. Alors, surtout quand on pense qu'il y a presque 1 milliard de Chinois, qu'est-ce que nous pourrons faire contre tous ces hommes de paillerie?
En 1957, ils reprennent et enrichissent un des personnages de leur riche galerie, l'écrivain Stéphane Brainville. Ils mettent en scène un nouveau personnage avec les cauchemars de Monsieur Fenaille, de vif succès. Bien que déjà, beaucoup de cabarets connaissent de grosses difficultés financières, comme chez Gilles, dues à l'exiguïté des lieux, 70 places, et les exigences des artistes qui sont de plus en plus élevées. Trop sollicités par le cinéma et le théâtre, Poiré et Serrault abandonneront le cabaret. Ils tournent pour la télévision, La Bivère, de Flers et Caillavé, une réalisation de Marcel Craverne, lors d'une soirée de prestige au Théâtre des Champs-Élysées, en présence du président de la République, René Coty. Il présente le prix du meilleur lecteur. En mai, chez Gilles, un nouveau sketch, La Prochaine, sujet rare chez eux, car il s'attaque au drame de guerre, l'histoire de la FICA, imaginaire Fédération internationale des conflits armés. Entre deux tournages, Bruno Cocatrix leur propose de jouer dès septembre à la Comédie Comartin pour avoir Adrienne, de Louis Verneuil. Un critique écrira « Ce que le tandem Poiré-Serrault ajoute à la pièce, c'est moins du texte que du talent. » Gros succès. La pièce part en tournée en province. 4 mois, 10 ans plus tard, ils enregistreront cette pièce pour la télévision dans le cadre d'Au Théâtre ce soir. Voici un deuxième sketch interprété par nos deux comédiens, Monsieur Schnops.
Nous recevons ici, chaque soir à notre tribune, une personnalité étrangère qui vient nous exposer ses vues sur le délicat problème de la liberté individuelle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de céder la parole à Monsieur Alexandre Schnops. Alors, cher Monsieur Schnops, si vous voulez bien entrer, je suis heureux de vous accueillir.
Merci. Je suis d'autant plus qualifié pour prendre la parole à votre tribune que j'ai quitté mon pays et que je viens demander asile à la France.
Écoutez, cher monsieur, alors, sans avoir consulté qui que ce soit, je peux vous dire d'ores et déjà que cet asile, nous vous l'accordons et de grand cœur, croyez-le bien.
Je n'en attendais pas moins de vous.
Voilà, vous pouvez être rassuré. Vous avez en quelque sorte choisi la liberté, alors.
J'ai, selon la formule usitée, choisi la liberté.
Oui. J'ai d'ailleurs l'impression qu'on peut, hélas, de moins en moins vivre là-bas.
Vous voulez dire qu'on ne peut plus vivre du tout, du tout, du tout, du tout.
Mais vous vous êtes échappé de Russie même, ou d'un pays satellite.
De Suisse.
De
Je me suis échappé de Suisse.
Alors là, c'est la première fois que j'entends dire ça.
Ah, ça ne sera pas la dernière. J'ai montré la voie, d'autres suivront.
Mais qu'est-ce qui a motivé votre départ de Suisse?
Eh bien, la tyrannie du régime helvétique pèse surtout.
Hein. Ah bon? Parce que le régime helvétique est tyrannique?
Toutes les libertés sont réduites à néant, tout simplement. Nous vivons en vase clos. Prenons un exemple quelconque. Vous les respirez là-bas, eh bien vous ne pouvez respirer que de l'air suisse.
Ah, évidemment, oui. Mais je pensais, à part ça, qu'il existait une grande liberté d'expression.
Ah bon, mon cher ami, alors liberté d'expression, oui. Pour les gens qui sont dans la ligne, qui se contentent de dormir, de travailler, de boire, de manger, de se distraire à la rigueur. Mais pour les autres, ceux qui aspirent à autre chose, pour ces gens-là, c'est l'étouffement. Alors les adultes, bien entendu, se résignent. Mais la jeunesse, monsieur, la jeunesse, notre pauvre jeunesse.
C'est le problème de la jeunesse. La jeunesse est opprimée, quoi.
Le mal actuel de la jeunesse ne pénètre pas chez nous. La jeunesse est muselée.
Oui. Aucune fureur de vivre.
Aucun goût de la violence. Et cependant, cette jeunesse, elle a besoin de s'extérioriser. Elle a besoin de frapper, d'assommer, de tuer, mais comme partout ailleurs, hein.
Bah évidemment. Non mais, si on ne tue pas à 20 ans, c'est pas à 50 qu'on le fera. Mais d'où vient cette apathie, selon vous, là, cette mollesse?
À mon avis, d'une trop lourde hérédité de paix.
Entre nous, on ne dépose pas les armes pendant des siècles sans que la jeunesse en souffre un jour ou l'autre. Allons, voyons.
Il y a une paix qui a fait un mal fou à ce pays et à tous ses enfants.
Mais sûrement.
Et puis alors, chez nous, pas d'exemple, pas de capitaine, pas de Jeanne d'Arc. Personne n'a jamais bouté les Anglais hors de Suisse.
Ils n'ont jamais envahi la Suisse non plus, faut bien le dire.
D'accord, mais on aurait pu quand même les provoquer.
C'est certain.
Nous n'avons même jamais été en guerre avec la France.
Non. Mais est-ce que c'était bien nécessaire?
Si, quand même, oui. Ne serait-ce que pour favoriser un rapprochement, c'était nécessaire. Non, croyez-moi, chez nous, il y a une invitation permanente à la paix.
Oui. C'est la paix froide.
Non, songez que notre pays vient de subir 3 grandes paix mondiales, monsieur.
Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Et évidemment, ce sont des choses qui comptent. Et 3 grandes peines, en quoi on s'entend?
Exactement. Tenez, prenez l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père a fait 71-14, 18-39 et 45-62.
Oh, 3 paix dans la vie d'un homme, ça compte quand même. Et il est toujours de ce monde. Il a tenu le coup.
Il est toujours de ce monde, oui. Il vient de s'engager dans la Légion.
Après la tournée en province de Pour avoir Adrienne, Poiré-Cérault, le 15 octobre, trouve le théâtre de 10 heures où il peaufine un nouveau personnage qui fera carrière. Monsieur Albert Lagrelèche, homme politique d'un parti imaginaire que nous avons rencontré dans une précédente émission. En 1958, les Gala Carcenti leur proposent une tournée pour jouer une pièce de Claude Magnier, Monsieur Mazure. Ils se baladeront en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. L'année 58 se termine par le test sur scène d'un nouveau sketch qui fera date. Les deux Hortenses, rebaptisés plus tard les Antiquaires, que Françoise et Philippe nous ont interprétés dans notre précédente émission. Les tournages de films s'enchaînent en cette année 59. La télévision fait appel à eux le plus souvent. Dans La Petite Lucarne, ils apparaissent dans l'émission La Clé des Champs. Les téléspectateurs découvriront Monsieur Petit Lagrelèche dans le sketch du vin d'honneur. Les Antiquaires leur seront aussi proposés. L'émission, numéro spécial, au studio Conakger, ils enregistrent un sketch de Robert Roca et René Paul, voiture à vendre. Voici Françoise et Philippe dans un troisième sketch, le sport. Poiré disait « Si vous ne pratiquez aucun sport et que vous ne suivez aucun régime, ce qui est mon cas, la meilleure façon de garder la forme, c'est d'être bilieux, comme on l'aura compris. Et Jean n'est pas très sportif. Mais quant à Michel, en dehors de son métier, il adore monter à cheval et s'exercer au dressage. Mais aller voir sortir en nage après avoir tout donné sur scène, on peut considérer qu'ils étaient à leur manière des athlètes. Pour leur sketch « Le sport dans l'émission », les optimistes du lundi en 1963, le duo développe une conception inédite de la remise en forme dans laquelle leurs femmes tiennent un rôle important. Voici le sport.
L'optimisme, pour moi, c'est le corps, c'est la santé. Une âme très saine dans un corps très sain. Pour ce faire, je pense que la meilleure thérapeutique, c'est le sport.
Enfin, oui, ce n'est pas compliqué de consacrer 10 minutes par jour à son corps. Regardez donc, moi, à mon âge, regardez, hop, je touche encore presque le sol. C'est pas magnifique de voir ça?
Mais si. Seulement, vous avez dû commencer jeune et en faire pas mal.
Non, pas tellement. Car ce n'est pas une question de quantité, voyez-vous, mais de régularité. C'est ce que le docteur m'a expliqué très souvent. Il ne s'agit pas d'en faire 6 heures par jour pour être difforme, avoir des pectoraux comme ça, voyez. Le tout est d'adapter ses exercices physiques à ses occupations quotidiennes. C'est ça le secret. Par exemple, quand vous fumez, il faut en profiter. Aspirez bien la fumée afin que vos poumons en profitent.
Eh oui. Alors, pendant que vous respirez ça, vous ne respirez pas de cochonnerie.
Je vais vous dire autre chose. Des mouvements, vous n'en avez pas 36. Vous en avez 3, 4.
Oui, il y a des mouvements de base.
Exactement. Vous avez ça pour les épaules.
Vous avez quoi ?
Vous avez ça comme mouvement, vous voyez. C'est épatant parce que ce n'est pas du tout fatigant, vous comprenez ?
Ça, je veux bien le croire.
Maintenant, autre chose. Ça, c'est pour la poitrine. Regardez, et hop, là, regardez, c'est pas grand-chose non plus. Il vous faut juste une veste et vous l'enlevez, vous voyez.
Une veste spéciale ?
Non.
Ah, la veste ordinaire. Vous savez, moi, quand je fais mon meilleur exercice, c'est quand je lis. Oui. Le fait de tourner les pages. Non. Regardez le travail que ça va faire à l'épaule. Regardez comme ça dégage bien l'épaule, voyez. Il faut quand même que je fasse attention parce que mon épaule droite aurait tendance à être plus développée que la gauche. J'ai lu autant n'emporte le vent l'année dernière et j'étais tout désaxée.
Il y a des mouvements comme ça qui sont très bien. Ouais. Ils sont ridicules, regardez, comme celui-ci, par exemple.
Je vous remercie. Ouais.
Ridicule, mais très efficace. Hein. Par exemple, moi, vous voyez, je travaille mon équilibre.
Mais en faisant quoi ?
En restant debout, tout simplement.
Question de volonté.
Mais évidemment, oui. Enfin, je vous en parle en connaissance de cause, parce que vous voyez comment je suis maintenant, regardez, athlétique, musclé.
Vous êtes bien.
Oui.
Mais c'est pas extraordinaire, mais enfin...
Ben, je suis bien, voilà, je suis bien. Et pourtant, mes parents ont eu beaucoup de mal à m'élever. Au départ, j'avais le coude mou, vous voyez.
Vous aviez là
Le coude mou, ah. le coude. Vous savez ce que c'est que le coude?
Oui, le coude mou, oui, j'ai compris.
Oui, mais enfin, bon, faites répéter.
Alors. Parce que c'est quand même assez rare.
C'est rare, c'est très rare. Et c'est héréditaire. Encore que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon père, il n'avait pas de coude du tout.
C'est moche dans une famille. Et qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça ?
Eh bien, à force de courage et de volonté, j'ai passé toute ma jeunesse à faire des rotations de coude. J'en ai quand même été élu, monsieur coude, en 1960.
Une sorte d'Apollon du coude. Mais alors ça, c'est la preuve que la force de caractère paie.
C'est pour ça que je m'insurge contre ma femme, qui, elle, ne veut rien faire.
Ah mais il y a des gens comme ça, je sais bien, hein, c'est pareil chez moi.
La culture physique, le sport, tout ça, elle ne veut pas en entendre parler. Elle me répond à ça, moi je tricote, c'est bien suffisant. Alors je lui ai dit, mon petit, et le tricot, ça ne développe que les doigts. Remarquez maintenant, elle a des doigts splendides, hein, des doigts qui font 40-45 cm. Alors elle n'a plus besoin d'aiguilles, elle tricote directement avec ses doigts.
Bon, c'est pas une solution.
Mais alors je suis obligé de l'entraîner sans qu'elle s'en aperçoive, parce qu'elle est têtue. Alors j'emploie des ruses de Sioux. Par exemple, quand je rentre avant ma femme, j'en profite, je lui jette son lit par la fenêtre dans la cour de l'immeuble. Alors quand elle rentre, elle s'aperçoit que son lit n'est plus dans sa chambre. Comme elle aime bien son petit confort, elle descend le chercher, elle remonte les 6 étages avec son lit sur le dos. Vous me direz, c'est un peu autre chose, mais enfin, c'est quand même un lit de chêne de 180 kilos.
Et elle ne vous dispute pas quand vous lui faites ça ?
Si, mais comme je sais que c'est pour son bien, j'accepte les humiliations.
Elles sont terribles. Et moi, ma femme, vous savez ce que je fais ? J'enlève une marge d'escalier. Elle ne s'y attend pas, parce que je ne l'enlève jamais la même. Alors elle bute et elle déboule. Mmh. Ça la maintient en forme, hein, c'est épatant.
Mmh. Elle ne se plaint pas des reins ?
Elle commence à bien se plaindre, mais bon, seulement je lui dis, ma pauvre chérie, quand tu seras comme ça, alors, voyez, comme Bardot, là tu seras bien... Ouais, Bardot, tu seras bien avancé.
Comment Bardot ? Qu'est-ce que vous racontez ? Bardot n'est pas comme ça.
Ah, mais je vous parle pas de Brigitte, Je vous parle de Jules Bardot, notre marchand de vin là, qui pèse 118 kilos.
Ah ben, bah expliquez-vous, je ne pouvais pas savoir, moi, 118 kilos. Enfin, remarquez, ma femme faisait ça l'année dernière, 118 kilos.
Ouais, je la connais, votre femme. Elle n'a jamais fait 118 kilos.
Bon, elle n'était pas forte, si vous voulez, mais elle commençait à s'empâter. Hein. Alors je lui ai dit, mon chéri, il faut prendre le taureau par les cornes, faut pas te laisser aller. Maintenant, le sport intensif.
Ah. Et qu'est-ce que vous lui avez fait faire ?
De la course à pied.
Ah, mais c'est le meilleur.
Ah ben, ça fait tout travailler, la course à pied. C'est moi qui l'entraînais. Nous avions un grand parc à l'époque et je courais avec elle, avec ma carabine.
Vous donniez le départ avec votre carabine ?
C'est ça, oui. Un coup pour le départ, deux pour la sommation et le troisième coup dans le gras de la cuisse, hein, si elle était encore à ma portée.
Elle a dû faire des progrès rapidement.
Bah, au début, ça laissait un peu à désirer, mais quand tu as extrait la sixième balle, elle s'est mise à faire les temps extraordinaires. Maintenant, un orage, un pneu qui éclate, elle vous fait ses 1000 mètres en 1 minute 25, c'est extraordinaire. Elle est magnifique maintenant, vous avez une ligne impeccable. 36 kilos.
36 kilos.
36 kilos pour 1m96.
Ah, c'est bien, hein. Mais faut pas qu'elle fasse moins, c'est la limite.
Ah ben c'est la bonne proportion.
Ah oui, mais faut pas se ruiner la santé quand même.
À l'Alhambra, il crée en septembre 1959, avec la complicité de Pierre Tchernia, la revue de Poiret et Serrault, avec des sketchs inédits, l'habilleuse, vacances dans une salle de bain. Chaque soir, salle comble. Le tout Paris vient les applaudir, comme il était venu les applaudir en mars au Théâtre Michel pour « Un train pour Venise » de Louis Verneuil et Georges Baer, mise en scène par Jacques Charon. Le 31 octobre, diffusion à la télévision de « L'anglais tel qu'on le parle » de Tristan Bernard. Le 7 janvier 60, revoilà Poiret et Serrault au Théâtre Gramont pour le spectacle « Vive de Gaulle ». Craignant les foudres de l'Élysée, il est finalement intitulé « Vive de », comédie sur l'actualité, écrite par Robert Rocca, Jacques Grélot et Pierre Tchernia. 9 mois à l'affiche. Cette année-là, il change de maison de disque, il quitte RCA pour la société Pathé Marconi, et c'est l'année des premières infidélités au sein du tandem. Ils apparaissent seuls au générique de quelques films. « Vive de » étant un succès, ce spectacle quitte la scène du Théâtre Gramont pour jouer les prolongations à l'Européen à partir du 18 février 61. Et de son côté, Jean Poiret imagine une délirante parodie d'un grand succès de Jacques Brel, « La valse à 1000 temps », qui devient sous sa plume « La vache à 1000 francs ». Chacun de leur côté, ils tournent pour le cinéma, ils jouent au théâtre et en 1962, ils s'attellent à l'écriture de leur première revue en duo Sacré Léonard. En attendant au cinéma de 10 heures, ils assurent la seconde partie du spectacle La vie et des votes. Succès tel qu'ils deviennent vedettes maison. Ils enchaînent chacun de leur côté, tournage sur tournage. Leur retrouvaille sur scène s'annonce foudroyante. Au Théâtre Fontaine, leur première comédie revue Sacré Léonard le 23 janvier 63. C'est l'histoire d'une pièce injouable et de toutes les solutions envisagées pour la sauver du naufrage. Et finalement, cette pièce sera jouée plus de 400 fois. Autant dire la gloire. Malgré 10 ans de duo, le public a encore du mal à distinguer Poiret de Serrault. Certains soirs, il lance une bonne fois pour toutes. Serrault, c'est celui qui a des moustaches, et Poiret, c'est l'autre. Pierre Tchernia, entrant dans la ronde, leur propose l'enregistrement d'un sujet dans le très sérieux magazine d'information télévisée, 5 colonnes à la une, pour mieux les faire connaître. Merci Françoise, merci Philippe. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission Poiret et Serrault. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour, l'audience des comiques est très restreinte. Il n'y a que le public qui les aime. Elle est de Jean Poiret. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas de m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.